Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Chers amis, nous voici de retour dans le studio de Radio Courtoisie avec Richard Decesse, Jean-Yves Le Gallou, Alexis Poulain, Xavier Van Lierde et Benoît aux commandes. Nous allons maintenant parler, donc, nous allons traiter le rendez-vous de la réinformation, donc évidemment avec tout ce pavé police-justice dont je vous parlais en introduction. Mais avant cela, nous allons remercier les auditeurs qui nous soutiennent. Ça fait quelque temps qu'on ne l'avait pas fait, parfois faute de courrier. Là, nous en avons. Alors, on va remercier par exemple un auditeur de Paris, dans le 20e arrondissement, qui envoie 55 euros et qui nous dit « Chers amis, je profite de l'envoi de mon soutien pour signaler quelques points de réclamation. » Ah ben c'est bien. « Épeler les noms propres. Invités, personnages peu connus, etc. » Là, vous remarquerez que je l'ai fait. François-Xavier Frolland. Ne pas parler en même temps et à plusieurs, effectivement, il ne faut pas blésimarder, on essaye de respecter les propos des uns et des autres. Ne pas parler trop vite et articulé, on va essayer. Et la musique de Restons Courtois est fatigante, ainsi que certains bruitages. Bah oui, mais ça, cher monsieur, il faut quand même avoir une identité. Donc, pour les premiers points, on va essayer de faire des efforts. Pour le dernier, malheureusement, je ne peux rien vous promettre, et même vous promettre que ça ne changera pas. Cela dit, soyez remerciés pour votre courage et la qualité de vos invités. Bah, cher monsieur, à vous. Un grand merci pour votre soutien qui nous est précieux.
Une auditrice de Paris dans le 16e arrondissement envoie 30 euros. Voici ma participation car votre radio est indispensable dans le paysage des médias citoyens.
Alors nous ne sommes pas tellement citoyens, nous sommes indépendants
de réinformation.
Voilà. Merci en tout cas, chère madame. Un couple d'auditeurs de Paris dans le 13e arrondissement envoie 60 euros. C'est très parisien, tiens, ce soir. J'aimerais vous demander une petite faveur. Demandez, si possible, la suppression de la musique de fond lors des infos de 7 heures et également, si possible, à tous vos merveilleux journalistes ou intervenants bénévoles de bien vouloir articuler et dire lentement le nom de leurs invités. Tiens donc, c'est peut-être l'épouse du monsieur. Merci encore et toutes mes félicitations à ma radio préférée. Bah, écoutez, cher monsieur et chère madame, non, c'est un couple. On va essayer de faire passer le message.
Une auditrice de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine envoie 200 euros. Auditrice ponctuelle de Radio Courtoisie, j'apprécie vos émissions toujours intéressantes et qui parlent toujours français et pas anglais. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un don ponctuel. Merci pour tous les sujets abordés. J'insiste, j'ai l'impression de devenir intelligente.
Ben, chère madame, merci, et vous l'êtes sûrement, on n'en doute pas. Merci en tout cas pour un précieux soutien. Et enfin, merci à un auditeur de Paris dans le 15e arrondissement, toujours, qui envoie 70 euros et qui nous dit que ce chèque contribue à la réalisation de vos émissions et au développement de votre radio. Continuez à nous proposer des émissions diverses, enrichissantes et nuancées. Eh bien, cher monsieur, nous allons essayer et si nous y parvenons, ben, c'est grâce à vous. Donc, un immense merci. Merci donc à tous les auditeurs qui nous soutiennent parce que leur soutien est indispensable. Et je tiens à préciser qu'à l'approche de l'été, nous allons traverser une période creuse. Donc, j'invite tous ceux qui nous aident, s'ils le peuvent, à continuer. Et ceux qui ne nous aident pas encore, à faire peut-être un premier pas, un premier geste, précisément à l'approche de l'été, où nous risquons d'avoir vraiment des problèmes pour tenir jusqu'à la rentrée. Donc voilà, votre soutien est absolument précieux. J'insiste parce que même 1 euro, même 5 euros, c'est déjà bien si, encore une fois, comme le dit souvent Richard de Sèze, il y a 1,5 million de personnes qui écoutent chaque semaine et 17 000 donateurs. 17 000 donateurs, c'est beaucoup et c'est bien, et on les remercie tous parce que sans eux, il n'y aurait pas de radio du tout. Mais je pense qu'on peut faire mieux, et idéalement, si nous arrivions à 20 000 donateurs actifs par an, ce serait vraiment parfait parce que nous serions à l'abri. Voilà, donc un immense merci. Et merci à tous ceux qui vont se décider à franchir le pas de la générosité ce soir et du militantisme de l'information. Alors, merci encore, et on passe donc au sujet suivant, le rendez-vous de la réinformation, avec un sujet épouvantable, et je dois dire que, en toute sincérité, c'est un sujet que j'ai du mal à traiter, étant moi-même père d'une fille de 13 ans. J'avoue que ça fait partie des sujets que généralement j'essaye de ne pas aborder parce que ça me révulse. Mais voilà, là c'est quand même extrêmement grave. Donc dimanche à Fleurance, dans le Gers, donc on a vu des séries de marches blanches organisées en France donc pour la mort de la petite Liana qui avait 11 ans et qui a été enlevée le 29 mai et retrouvée morte la semaine dernière. Alors l'enquête met en cause un homme qui s'appelle Jérôme Barella, 41 ans, qui connaissait la fillette de longue date et qui, de toute évidence, aurait dû de longue date aussi être derrière les barreaux. Puisque l'accusé, comme je l'ai dit tout à l'heure, est inculpé dans 9 procédures de viol ou d'attouchement sexuel. 9 procédures de viol et d'attouchement sexuel, et il était toujours libre comme l'air. Et ajoutons qu'en août 2025, une plainte avait été enregistrée contre lui pour des viols présumés sur une fillette de 12 ans et qu'il ne s'était rien passé jusqu'à la semaine dernière, puisque la procédure est encore en cours. C'est-à-dire que le violeur et meurtrier présumé, qui est actuellement en prison parce qu'il est soupçonné d'avoir tué Liana, n'a pas encore été convoqué par la justice pour un éventuel viol sur une fille de 12 ans qui a eu lieu l'an dernier. Alors voilà, pardon, mais voilà, je pense qu'au-delà de la responsabilité du criminel, il y a aussi de toute évidence un système judiciaire défaillant. Alors, comment l'expliquer ? Est-ce que c'est le manque de moyens ? Est-ce que c'est les procédures trop complexes ? Est-ce que c'est la responsabilité des juges ? Je ne sais pas si l'un d'entre vous a un mot. Alexis Poulain, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous avez...
Oui, j'ai beaucoup écouté. J'ai trouvé ça marrant sur l'interview d'avant, sur la nouvelle France, qui est le modèle du nouveau Mali, en fait.
Oui, en train de... Alors, marrant, je ne sais pas, mais étonnant.
Bah, enfin, c'est étonnant, voilà. C'est-à-dire que ouais, c'est une perte de repère globale. Comme la justice, tiens, tenez, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui avec journalistes et anciens avocat sur un problème qu'on dit systémique, mais qui va bien au-delà, sur une sorte de machine où les ministres font circulaire sur circulaire, où évidemment chacun a l'impression de faire son travail, mais le fait mal, visiblement, puisque la priorité des priorités, qui devrait être la protection des enfants, des plus faibles, passe à la trappe, ou du moins n'est pas une priorité, ou alors est une priorité en fonction de l'agenda politique, on va dire. C'est quelque chose de choquant. Je pense que là, la colère, elle est vraiment palpable. Alors, ça ne fait qu'augmenter. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, essaye de se dépatouiller de ce dossier tragique et encombrant, en expliquant que bah, y a pas d'erreur de la part du ministre. Donc il va falloir trouver un lampiste hein, pour payer, comme d'habitude, au jeu de la patate chaude en France. Je pense que tout le monde, ou globalement une majorité de Français, attendait la démission de Gérald Darmanin sur un cas pareil. Il ne le fera pas, comme il ne l'a pas fait sur les supporters anglais. Comme jamais, aucun responsable politique, d'ailleurs, ne le fait, puisqu'ils sont responsables, mais pas coupables. Coupables de rien. Au final, ce sont des innocents qui meurent.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, moi je crois qu'il faut voir comment c'est exploité, cette affaire dramatique est exploitée. Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, avec deux de ses collègues, a annoncé solennellement qu'elle voulait faire voter une loi intégrale, je cite, sur les violences sexistes et sexuelles. Alors, ça amène deux remarques. D'abord, les lois actuelles permettaient tout à fait d'empêcher ce type de commettre ce crime, de mettre hors d'état de nuire, il n'y a pas besoin de la nouvelle. Deuxième élément, les violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire qu'on met sur le même plan les violences sexistes, c'est-à-dire en
tant que
guillemets du vocabulaire, qui peut-être déplacé, mais qui ne reste que du domaine du vocabulaire, du domaine de la parole, et les violences sexuelles, qui là aussi peuvent avoir des degrés différents, mais peuvent prendre la forme du viol. Et donc, on va encombrer la justice d'affaires secondaires. Et évidemment, quand la justice traite les affaires secondaires, est encombrée par les affaires secondaires, eh bien, elle délaisse les affaires les plus importantes, qui sont en plus celles qui sont peut-être les plus difficiles à traiter, parce qu'elles demandent davantage d'investigation.
Oui, parce qu'une remarque sexiste, Jean-Yves Le Gallou,
on continue d'encombrer la justice.
Une remarque sexiste, ça peut être un chef d'entreprise qui dit « les bonnes femmes, c'est bon qu'à la cuisine ». Enfin, je ne dis pas voilà. que je partage ce point de vue du tout, mais
je
ça,
pense
c'est
que
une remarque
le
sexiste
tribunal
caricaturale.
Très rapidement dans
où les hommes
affaire-là.
Sont tous des salauds.
Oui, ça c'est moins.
Bah, c'est une remarque. Alors,
là, vous l'avez
fait. Oui, mais... je crois qu'on est fondamentalement dans un système, et pas seulement dans ce domaine-là, où le crime contre la pensée est pire que le crime violent.
Voilà. Ça sera notre sujet suivant.
Et, oui, et c'est vraiment une préoccupation. Mais là, je trouve que les déclarations de Mme Braun-Pivet sur une loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles, mais c'est tout ce régime depuis 40 ans, un problème, une loi. Or, la loi ne règle pas le problème. Souvent, elle
surtout,
complique le règlement du problème.
Oui,
les lois existent
les lois
déjà.
Existent, en fait. Le code pénal, c'est monstrueux. Je ne sais pas combien il y a de lois. Mais, et surtout, ça a été fait par des gens. On oublie toujours de le dire, mais on n'a pas besoin, encore une fois, de nouvelles lois, parce que des viols, des meurtres, il y en a depuis la nuit des temps. C'est des législateurs tout à fait pondérés, des gens sérieux, calmes, qui ont fait ces lois. Et on n'a pas besoin de les changer sans arrêt pour faire croire qu'on est plus malin que des gens qui vivaient il y a 50, 100 ou 150 ans avant nous pour les mêmes problèmes, finalement.
Oh bah on n'est plus dans les lois d'il y a 150 ans. Enfin, le dernier code pénal viable, c'était celui qui était issu de la loi Sécurité-Liberté d'Alain Perfit, qui a été démantelé à l'époque Badinter, et surtout très compliqué. Le code pénal et le code de procédure pénale ont augmenté de 50% de volume en quelques dizaines d'années. Or, plus le code pénal et plus le code de procédure pénale sont épais,
oui.
plus c'est difficile d'avancer.
Absolument. Et donc, ça rend compliqué, ça complique la procédure.
Et donc, le temps.
Mais alors...
C'est-à-dire que tous les gens qui votent des lois nouvelles ne se posent jamais la question combien ça va prendre de temps, temps policier, de temps de juge, de temps de policier.
Oui.
On ne se pose pas la question.
Là, la plainte pour viol en 2025, pas encore traitée. Je regardais un peu, il y a eu un article sur les sanctions dans le monde juridique. Il y a eu un juge, alors déjà il y a eu 391 décisions rendues sur des plaintes contre les magistrats en 2025. Sur 391, hein, 303 ont été rejetées, jugées irrecevables. 87 plaintes ont été donc entendues. Et une seule a été suivi d'un renvoi d'un magistrat, et parce que ce juge donc, avait laissé un dossier en plan pendant 7 ans. Donc, il l'avait peut-être oublié d'ailleurs. Et on a eu 53 sanctions contre des magistrats en 10 ans, alors qu'on a 9000 magistrats actifs en France. Ce qui veut dire que quand même le taux de sanctions contre les magistrats est absolument dérisoire, parce que dans n'importe quelle entreprise... et je parle de Radio Courtoisie comme d'une autre, en gros tous les ans on a 2 ou 3 problèmes avec des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on est amené à licencier des gens pour des fautes, pour des problèmes d'entente ou je ne sais quoi, mais les licenciements ça existe, et les révocations dans la magistrature ça n'existe pas. 53 en 10 ans sur 9000 magistrats, c'est absolument dérisoire. Donc il y a peut-être aussi une protection, une espèce d'entente entre ces gens qui se serrent les coudes et qui ne se condamne que lorsque c'est absolument impossible de faire autrement. Cette magistrate procureure de Auch, donc, qui a laissé ce suspect, ce criminel potentiel dans la nature, on peut quand même se demander ce qu'elle avait à foutre de ses journées, pardon. Mais
si elle s'occupait des agriculteurs.
Alors, voilà, Xavier Van Aert.
Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que Gérald Darmanin a expliqué que malheureusement, il n'était plus possible de donner des instructions à la justice pour lui donner des priorités et autres. Mais à l'évidence, les juges connaissent par instinct les priorités qui sont et ce que le pouvoir attend d'eux, puisque ce qui a occupé énormément la justice dans le Gers où a eu lieu ce crime atroce, eh bien, c'est l'audition de dizaines et de dizaines d'agriculteurs de la coordination rurale, parce qu'ils avaient, dans le cadre d'une action syndicale contestant à la fois, c'était la période à la fois contre le Mercosur et la vaccination obligatoire de certains de troupeaux, donc menaient une action syndicale, et eux ont été entendus les uns après les autres, convoqués, entendus et autres. Ça démontre une autre chose. Les moyens sont dirigés non seulement dévorés par des histoires qui encombrent la justice et qui sont dérisoires, mais ils sont aussi mobilisés quand même pour réprimer les Français, pour exercer une répression politique contre les agriculteurs décrits comme d'horribles souverainistes, complotistes et autres, et contestant les projets mondialistes du gouvernement. Mais on voit aussi la célérité avec laquelle l'ensemble des militants identitaires, à la moindre action, sont poursuivis, les forces de police mobilisées dès 6 heures du matin pour aller les cueillir, alors que c'était des actions pacifiques. Et donc, en réalité, le vieux pacte ancestral entre les Français et son État, qui consiste à renoncer à l'exercice de la violence, à ne pas se faire justice soi-même parce qu'on l'a délégué, toutes ces missions-là à l'État, a été rompu. Il était rompu parce que les moyens de l'État sont détournés de leur objet premier. Non seulement cet État est défaillant, mais de surcroît, il utilise la plupart de ses moyens pour de la répression politique. En réalité, c'est extrêmement grave. On a vu dans les mêmes 15 jours l'incapacité à maintenir l'ordre suite aux émeutes consécutives au match du PSG, avec 500 interpellations, c'est bon, on va me dire c'est déjà pas mal, mais enfin 4 condamnations à de la prison ferme, si je ne me trompe pas.
3.
Donc défaillance absolument totale face à quelque chose qui relève de l'émeute, et ensuite ce foirage complet d'un violeur laissé dans la nature. Mais en revanche, le moindre identitaire qui déploie une banderole, on va le cueillir à 6 heures du matin. Le moindre agriculteur qui défend son métier et qui veut juste travailler, lui aussi, on va le cueillir et le convoquer à la gendarmerie. En réalité, ça va très très mal. Ça va très très mal. Ça ne pourra pas tenir indéfiniment, cette façon de faire.
Alors, Richard de Sèze et ensuite Alexis Poulain.
Oui, oui, et puis il y a les catholiques de Civitas qui chantaient devant une église pendant la nuit blanche, se sont fait emmener en garde à vue, 6 d'entre eux, juste parce qu'ils chantaient et qu'on a considéré que c'était violent. Je voudrais revenir sur... C'est un peu plus évidemment que ce que fait un casseur quand il est en train de ravager quelqu'un ou d'envoyer un mortier sur le pied d'un des malheureux qui a été blessé à Paris et estropié. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Xavier Van Lierde, sur Darmanin qui dit qu'on ne peut plus rien dire. L'USM, donc le premier syndicat de magistrats en France, a fait le calcul. Depuis 2025, Darmanin a pris 114 circulaires définissant les priorités. 114.
Depuis quand ?
Depuis 2025.
Ça fait combien par mois ?
Alors, en admettant que ce soit depuis un an et demi, ça fait à peu près 8 circulaires. Ça fait 7 ou 8 circulaires chaque mois, expliquant le lundi que c'est les LGBTQ, le mardi que ce sont les nationalistes, le jeudi de la semaine suivante qu'il s'agit des atteintes à la nature avec les décharges sauvages. Comment voulez-vous qu'un magistrat hiérarchise les priorités de Gérald Darmanin, qui, pendant que Yael Braun-Pivet ou Aurore Berger pissent une loi chaque fois qu'il y a un fait divers qui va dans leur sens, lui pisse une circulaire à chaque fois pour bien montrer qu'il a bien compris comment ça marchait. Le même syndicat a fait un autre calcul, dont les chiffres ne sont pas de moi évidemment, puisqu'il a expliqué que personne ne partira en vacances tant que les 70 000 plaintes concernant des problèmes de violence physique ou sexuelle touchant les enfants ne seraient pas réexaminées en 5 semaines. Voilà. Donc il y a 400 magistrats qui vont devoir travailler 160 heures par semaine pour examiner 170 000 plaintes. Voilà, ça c'est le type de priorité et c'est le type de déclaration dont Gérald Darmanin est coutumier. Autrement dit, du vent, d'une part, et ensuite de l'insulte. Parce que dire aux Français « j'interdis aux magistrats de partir en vacances parce qu'ils vont examiner 70 000 plaintes », la seule chose que ça signifie, c'est d'une part que ces magistrats ne vont plus du tout pouvoir traiter les autres affaires. Donc, si ça se trouve, y compris les affaires de viol qui sont en train d'arriver. Mmh. et qu'ils vont être embouteillés sur des plaintes dont, évidemment, les trois quarts vont être classés sans suite, par principe.
C'est déjà le cas.
Quand j'ai pas le temps, je classe.
Oui, oui. Alors le nombre de plaintes classées sans suite est époustouflant. Alexis Poulain.
Oui, mais c'est ça, c'est qu'on a un système totalement ubuesque où on a multiplication de procédures, mais finalement, on classe sans suite, là où les choses importantes passent derrière, parce qu'il y a une justice politique. Enfin, c'est fou, là, le Civitas en garde à vue, parce qu'ils ont prié devant une église où Barbara Butch faisait un set. Voilà ce genre de truc qu'on veut plus voir. C'est totalement dingue, en fait, de se dire que les moyens de l'État, nos impôts, servent à ça. Et à côté de ça, les choses essentielles sont laissées de côté. Et quand on voit les déclarations totalement démagogiques de Gérald Darmanin, qui veut faire croire qu'on va rattraper le temps perdu en faisant semblant de revenir sur 70 000 plaintes en quelques semaines, c'est insultant déjà pour les magistrats et pour les Français. C'est ridicule. Et la seule chose, en fait, qui est à faire, peu importe la suite, mais au moins remettre sa démission, parce que ça montre que ces gens-là, ceux qui sont au pouvoir, les responsables mais pas coupables, en ont vraiment rien à foutre. Ils n'auront jamais à rendre des comptes. Et d'ailleurs, le meilleur responsable politique hein, qui est l'illustration de tout ça, c'est un Gabriel Attal qui a fait des stages de 6 mois à plein de postes ministériels et qui explique ensuite qu'il a une carrière d'homme d'État incroyable alors qu'il n'a rien foutu. En fait, il est juste passé 6 mois dans un ministère pour voir comment ça se passait. Donc, on ne fait rien. La responsabilité, je pense, ça, c'est quelque chose qui doit revenir en politique si on veut demander ensuite aux Français des efforts. Sinon, ça ne sert à rien.
Alors, Alexis Poulain, vous rejoignez d'un certain point de vue Bruno Retailleau qui demandait justement qu'on travaille sur une réforme du Conseil supérieur de la magistrature et notamment pour appliquer des sanctions plus nombreuses et plus rigoureuses aux magistrats fautifs. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a envie de réagir à cette proposition de Retailleau qui ne semble pas idiote mettre le juge face à ses responsabilités,
c'est pas idiot.
Ça peut être un critère intéressant dans une carrière.
Oui, c'est pas idiot, mais on en parlait avec Pascal Pierrat ce matin. Donc Pascal Pierrat, ancien juge d'instruction, évidemment très malin parce que je n'y connais rien. Je lui parlais du juge Burgot et elle me disait, mais en fait, quand ceux qui ont examiné le cas du juge Burgot ont regardé les éléments qu'il avait en main pour apprécier, d'une part, une partie des choses qu'on savait, lui ne les savait pas. Et d'autre part, la manière dont le juge Burgot a été jugé par ses pairs, donc il s'agit de l'affaire Doutreau, a tenu compte aussi du fait que personne dans sa hiérarchie n'a bougé un doigt tout le temps de son instruction. Non. Alors que le juge Burgot faisait remonter évidemment ses rapports et que la hiérarchie était au courant. Donc ce que veut Retailleau, c'est une fois de plus désigner des lampistes alors que le problème est structurel. Dire si jamais un président de tribunal, sur la foi d'une évaluation psychologique idiote, relâche quelqu'un qui commet un crime derrière, est-ce que c'est le président du tribunal qui est coupable?
Est-ce que c'est le psy?
Ou est-ce le psy? Voilà, et donc, comme d'habitude, on a l'impression qu'en criminalisant les juges, on va arriver à faire criminaliser.
Non, mais il n'y a aucune raison que ça soit la seule corporation qui ne soit pas responsable. Quand un chirurgien a un problème médical, ça peut arriver, il n'hésite pas à enquêter et à le condamner. Quand un guide de montagne a un accident, il n'hésite pas non plus à être éventuellement à le condamner. Donc on ne peut pas dire les juges, ils exigent la transparence, ils exigent la responsabilité de toutes les autres corporations et eux, c'est Dieu sur terre, ils sont intouchables. Ça, je ne crois pas. Il faut que les juges, et puis quand on parle des plaintes que les particuliers peuvent faire, si vous voulez récuser un juge aujourd'hui, parce que vous avez des soupçons de militantisme politique, etc., vous n'avez aucune possibilité, parce que vous n'avez aucune possibilité d'accéder au dossier. Voilà. La transparence, il n'y en a pas non plus. Un homme politique, il doit déclarer des éléments de revenus, ils sont publics. Un juge, un haut magistrat, ça n'est pas public. Donc, il y a vraiment une corporation qui est au-dessus des autres, au-dessus de la loi, parce que non seulement il n'applique pas forcément les lois, mais il est surinterprète dans certains cas. Je crois qu'il y a un vrai problème avec les juges, et de ce point de vue-là, que Retailleau ait posé la question d'un conseil de discipline qui ne soit pas composé uniquement de juges, c'est, je crois, quand même une vraie question.
Vous avez envie de lire, d'Alexis Poulain, un mot sur cette proposition de Retailleau, Bruno Retailleau.
Oui, moi je suis plutôt favorable également.
Oui, pareillement. Il y a une corporation qui se défend, évidemment. Maintenant, la question des moyens, elle est réelle, hein, de toute façon. Et puis, la question ensuite de la formation, parce que il reste l'idéologie. On n'a pas parlé, mais j'en parlais ce matin, de la féminisation quand même de ce métier de magistrat.
Attention aux injures sexistes, on va être condamné.
Non, mais c'est très bien, c'est très bien, et c'est très bien, et c'est très bien. Mais on pouvait s'attendre peut-être à plus de prise de conscience de l'importance de la protection des enfants, de la part d'un corps de métier qui s'est féminisé, contrairement à d'autres. Mais là, rien. Et par contre, l'idéologie qui est entrée, politique, qui a abouti à ces juges qui ont fait tomber Fillon pendant la campagne de 2016 pour assurer une petite place à Macron, sinon il n'avait aucune chance. Voilà, c'est ça en fait. Le problème aujourd'hui, c'est cette idéologie dominante au sein de la magistrature, où ils ont l'impression, parce qu'ils donnent la justice, d'être le bien incarné. Et on voit au-delà des procédures qui ne jugent pas les criminels, une justice clémente, très clémente, qui condamne une deuxième fois les victimes, parfois. Et puis une justice politique aussi où on voit se multiplier les procédures, alors parfois à dessein, et c'est juste, mais parfois aussi parce que tiens, on est en année électorale et ça tombe bien. Voilà, c'est juste ça, et ça devient un peu ridicule, je trouve.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, moi je crois qu'il faudrait, ça c'est une commission parlementaire qui pourrait peut-être le faire, identifier le coût en homme juge ou en homme policier. À la fois des procès à grand spectacle, c'est très bien de faire un procès de 6 mois à Sarkozy, oui. C'est très bien de faire un procès de 6 mois à Marine Le Pen, je dis 6 mois parce que c'est 2 fois 3 mois plus sous le temps, le procès Pellicot, qui était une affaire sordide, on a fait pendant 3 mois de la justice au spectacle, voilà. Bon, donc il faudrait chiffrer le coût de tout ça, parce qu'il y a un coût qui est considérable. Le coût aussi de toutes les poursuites politiques. Les milliers de personnes qui sont poursuivies pour des tweets, pour de simples tweets. Je crois qu'il y a vraiment là une sorte de
diversion, de hiérarchisation.
Ouais, ouais. Il y a un coût. Alors, ça ne mobilise pas tous les moyens, évidemment. Mais les poursuites, on a parlé des agriculteurs, on pourrait parler des poursuites contre les opposants. Il y a vraiment une distraction des moyens de la justice et de la police qui ne sont plus au service du bien commun, du bien général, mais au service de finalités idéologiques ou partisanes.
Donc, plus de sanctions contre les délinquants sexuels, moins contre les délinquants textuels.
Voilà. Voilà,
je résume votre...
Oui, voilà, oui. Hein, oui.
Alors, il y a aussi un autre point, je voulais quand même vous évoquer les sanctions, donc le détail de ces sanctions, donc 53 sanctions en 10 ans, c'est quand même pas beaucoup, hein. Faut quand même se mesurer, hein. 53 sanctions en 10 ans, c'est vraiment rien, dont 9 blâmes, 8 déplacements, 7 abaissements d'échelons, donc ça c'est quand même un peu mieux, 6 mises à la retraite d'office, mais alors ça veut quand même dire en gros, bon, tu pars en silence et t'auras pas d'ennui, des admissions à cesser ses fonctions, alors j'avoue que je fais mal la différence avec la retraite d'office, 2 exclusions temporaires, mais donc temporaires, 2 interdictions d'exercer certaines fonctions, et seulement, en tout cas, voilà, pour en arriver au plus grave, seulement 2 révocations. Alors j'imagine que si les juges ont décidé de ces peines, c'est sans doute parce que c'était juste et équilibré, etc. Mais néanmoins, quand on voit le nombre d'affaires de dingues, où on voit des assassins sous OQTF qui ont pu tuer parce qu'ils n'avaient pas été expulsés, le nombre de délinquants sexuels, enfin de criminels sexuels, parce qu'il ne faut pas dire délinquants d'ailleurs, ce sont des criminels sexuels, des criminels en tout genre, qui sont libérés des années et des années avant la peine échue, on peut quand même se dire qu'il y a peut-être un nombre de juges qui méritaient plus que ces petites affaires, parce qu'un blâme, c'est mignon. Mais quand on a un blâme parce qu'on a laissé sortir un monstre qui a assassiné ensuite 1, 2, 3, 5, 10 personnes, c'est quand même assez
ténu. Et les juges sont généralement assez sévères pour les policiers.
Ah, oui, oui.
Enfin, c'est pas là des sanctions administratives, ça peut être des sanctions judiciaires qui sont davantage au contact du terrain d'ailleurs, donc quand même plus facilement exposées à de vraies difficultés.
Alors,
le juge, il est quand même derrière son bureau, hein.
Oui, et j'ai appris, alors toujours, j'avoue que je découvre, hein, mais en lisant quelques articles sur le sujet, que contrairement à ce que j'imaginais, en tout cas dans certains tribunaux, peut-être que dans certains tribunaux il y a un rythme stakhanoviste, mais moi j'imaginais des juges qui enchaînaient les dossiers à peu près sans cesse. Mais apparemment pas du tout. Il y a des juges qui ne font pas beaucoup de dossiers chaque année, et comme ils sont sûrs d'avancer à l'ancienneté, j'ai découvert qu'on avançait à l'ancienneté dans la magistrature et pas du tout à la performance.
C'est un élément d'indépendance, ça.
Ah oui, mais quand même. Est-ce qu'il ne s'agirait pas maintenant de fixer peut-être un nombre de dossiers planchers à traiter chaque année ou chaque mois? Parce que c'est quand même un peu bizarre de... littéralement, on se met dans son fauteuil, on donne un ou deux, trois jugements de temps en temps et on laisse dormir des dossiers pendant 7 ans ou 1 an ou 2 ans. Nous, on est en procès depuis 10 ans quasiment avec un de mes prédécesseurs. Bon. C'est long. Et c'est pourtant pas compliqué.
Il faut le condamner. Si c'est compliqué, c'est compliqué.
Non, mais il nous doit 10 000 euros.
Parce que...
Oui ?
Oui, mais on parle du nombre de juges qui ont été révoqués ou sanctionnés, mais il y en a aussi dans le lot qui peuvent être sanctionnés pour de mauvaises raisons.
Oui, certainement.
Je ne sais, sais pas si vous vous souvenez de l'affaire d'un vice-président de tribunal à Paris, je crois, d'un certain Tonis Curtis. C'est lui,
ah oui, bien sûr. Oui.
Voilà, il a été viré parce qu'il était jugé trop sévère, et notamment parmi les griefs qui lui étaient faits, il y avait celui de prolonger de façon systématique les mesures de rétention administrative des déboutés du droit d'asile sous obligation de quitter le territoire français. Donc vous voyez, il faut sanctionner les juges, mais parfois, ils sont aujourd'hui, dans le régime idéologique sous lequel nous vivons, sanctionnés pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que dans les 53 que vous avez cités, il y en a peut-être plein qui sont en réalité des braves gens qui voulaient protéger les Français et appliquer réellement la loi. Voilà. Le surnom de ce juge dans cette profession complètement vérolée, c'était le juge Marteau, c'est rigolo, hein, ou monsieur 100%, parce que systématiquement, il souhaitait effectivement que les OQTF soient appliquées. Si elles n'étaient pas maintenues en détention, ce qui semble quand même la moindre des choses, puisque ces gens ont quand même violé la loi. Voilà, ils n'ont rien à faire.
Absolument,
là.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je précise qu'on doit l'inviter, ce magistrat, effectivement, qui est tout à fait intéressant. Alors, le temps nous presse, malheureusement. On a d'autres sujets à traiter. Il y a justement, en matière de dérive judiciaire, d'encombrement, d'absence de discernement quasiment, et de démagogie politicienne, cette dérive du nouveau projet d'Aurore Berger sur le racisme, et qui la rappelle, on l'a évoqué plusieurs fois pendant cette émission, mais ce propos de Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag, qui expliquait que en fait, les ZEC, qui étaient des criminels de droit commun, étaient infiniment mieux traités au Goulag, et infiniment moins condamnés d'ailleurs, que les criminels, enfin les soi-disant criminels idéologiques, qui œuvrent vraiment prenaient le plus cher, les plus grosses peines, et subissaient sur place les pires traitements. Et là, on a l'impression qu'Aurore Berger est vraiment toujours dans cette logique. Donc elle est ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, et après avoir essayé de reprendre le projet de loi Yadan, elle propose un nouveau texte le 1er juillet, donc on est le 8 juin, donc dans quelques semaines, avec 10 articles et un seul objectif, durcir ce qu'elle appelle la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et permettre surtout à des associations spécialisées, si je puis dire, comme la LICRA, SOS Racisme, etc., de se porter partie civile pour des délits d'opinion. C'est quand même ahurissant, des délits d'opinion. Qui sont ces gens pour attaquer et pour favoriser ainsi
leurs droits ? Ils le font déjà.
Oui, et là, apparemment, là, il s'agit de faciliter leur accès à la partie civile.
Oui, ça leur permettra de gagner un peu plus d'argent, à leurs avocats de gagner un peu plus d'argent en poursuivant des braves gens. Il y a aussi un élément qui est la possibilité de déclarer inéligible quelqu'un qui aura été condamné pour racisme, c'est-à-dire critiquer l'immigration, ça peut permettre d'être condamné pour racisme, et même en citant simplement des statistiques. Zemmour a été condamné simplement pour avoir cité des statistiques, donc on éliminerait la possibilité d'être candidat, et donc on donnerait au juge, on redonne un pouvoir supplémentaire au juge de dire pour qui vous avez ou le droit ou non de voter. Donc ça, c'est un élément. Il parle aussi d'étendre le délit de négationnisme. Là, c'est par rapport à Vichy. C'est-à-dire qu'en gros, dire ce qu'on disait sur Vichy avec Robert Aron oui. dans les années 50 ou 60, aujourd'hui, ce serait interdit. Ou Henri Amourou, oui. aujourd'hui, ça serait interdit. Voilà l'ensemble du dispositif. Et je pense que Mme Berger a un rêve. C'est de rentrer
dans l'histoire
comme une nouvelle
Pleven,
oui. comme nouvelle Pleven, comme nouvelle Guesso, voilà, le tout en se faisant bien voir de toutes ces officines subventionnées, aussi subventionnées que liberticides, que sont la Ligue des droits de l'homme, la LICRA ou SOS Racisme.
Quelle belle ambition. Xavier ou Alexis Poulain, un mot sur cette loi et on passe à autre chose.
Parce... Non, moi, je pense que c'est évidemment, cette loi rentre dans le cadre d'un raidissement d'une je ne sais pas comment l'appeler, le social-démocratie ou d'un extrême-centre absolument ouais. à bout de souffle.
L'extrême-centre radicalisé, comme voilà, dit Mathieu Bocquet.
Totalement à bout de souffle et qui ouais. Se donne quand même des moyens d'accentuer la répression si c'était demain nécessaire.
Ça se Vous pensez à 2027 alors
2027 ou après, c'est-à-dire la possibilité de débrancher tel ou tel candidat au gré des nécessités. Et je ne crois pas délirer en disant cela, car aussi bien dans beaucoup d'autres pays européens, ce type de dispositifs sont déjà mis en place. L'AFD, parti patriotique allemand, est aujourd'hui la première force politique du pays et ils envisagent très tranquillement la possibilité d'interdire le parti lui-même tout entier là. Voilà. Donc je crois réellement que toutes ces forces politiques qui voient la situation leur échapper et la perspective d'être balayées se préparent potentiellement à ce type de coup de force, juridique, et que cette loi est donc une préparation de cette possibilité. Voilà, et donc c'est extrêmement, extrêmement grave, en réalité, ce qui se passe.
Alors, Richard ouais. Decez, on a des questions d'auditeurs, je crois.
Alors, un auditeur nous signale que le frère du meurtrier présumé a été arrêté, lui aussi, pour viol sur mineur et viol sur conjoint.
Magnifique.
Voilà. Donc, sur TV Liberté, Juan Branco a présenté une explication au retard scandaleux du traitement des plaintes pour délits sexuels par le flot des plaintes émises suite au mouvement féministe MeToo qui a inondé les tribunaux avec des dossiers en plus impossibles à traiter étant donné les délais de prescription qui ne permettent plus d'enquête ni de véritable recherche de preuves.
Ça, c'est sûrement une réalité, oui.
Mmh. Ouais. Pourquoi nos brillants représentants du peuple s'inquiéteraient-ils des conséquences ou des possibilités d'application de leurs textes? Ne sont-ils pas les créateurs d'un monde parfait et de la cité radieuse, laïque et républicaine? On sent une certaine ironie. Une belle-sœur qui avait arraché un écureuil des griffes de son chat et l'avait recueilli a été dénoncée à la gendarmerie pour avoir ôté sa liberté à un animal sauvage. Ma belle-sœur a été poursuivie par les gendarmes qui ont cherché à l'entendre sur cette importante affaire. Comme elle se cachait avec son écureuil, ils ont dû passer plusieurs fois son domicile avant de réussir à la convaincre de relâcher la bestiole qu'elle avait sauvée. C'est génial. Bon, ok.
Ça, c'est drôle et en même temps, c'est horrible quand on y pense. Ce temps perdu, ces conneries, alors qu'il y a peut-être des criminels
dans
le voisinage.
C'est la perte du bon sens aussi.
Ah oui, oui, ouais,
c'est la, c'est la perte mais, du bon sens.
Il faut s'en prendre au vrai responsable qui est le chef de l'État. Voilà.
Oui, mais pas que. Ils sont nombreux, en fait.
Sur les lois liberticides, il y a une étude qui a été publiée récemment par Polyméa. Il y a plus d'une centaine de dispositifs liberticides qui ont été pris au cours des 30 dernières années. Même, et avant, il y avait la loi Pleven et quelque chose comme ça. Il y a tous les ans... Il y a nouveaux dispositifs liberticides. Et là, la loi Berger est quand même un cran à la loi Berger. Le projet de loi Berger est un cran supplémentaire. Oui.
Alors, on doit accélérer un petit peu. J'avais prévu d'évoquer un sujet tragicomique. Je vous le résume rapidement, on n'aura pas le temps d'en débattre parce que ce n'est pas non plus extrêmement important. Mais donc, c'est cette ville de Clichy-sous-Bois. Qui a publié un communiqué. Donc, la ville de Clichy-sous-Bois et la famille Fofana vous invitent à un rassemblement en hommage à Mamadi, donc Mamadi Fofana. Ça se passait samedi à 12h. Et plusieurs personnes sont allées à cet hommage. Et l'objectif, donc, était d'honorer monsieur Mamadi Fofana, 20 ans, tué de 15 coups de couteau dans une chambre d'hôtel de Clichy-sous-Bois 3 jours plus tôt. Et c'était manifestement un accident du travail. puisque le jeune proxénète, bah, si c'est vrai, c'est comme un...
Quand méritant quand même, il commençait la carrière très jeune.
Ah, en plus, oui, un jeune entrepreneur plein d'avenir, petit ange parti trop tôt. Et il a été tué par un client mécontent qui s'apprêtait à faire une passe avec une de ses prostituées.
Mineur.
Une de ses salariées, donc oui, mineur. Mineur, ça, vous
mineur,
m'avez appris.
Mineur, mineur.
Et donc la bagarre aurait éclaté pour des raisons qu'on ne comprend pas, enfin qu'on ne connaît pas encore.
Et, le client serait turc.
Oui, ça n'explique peut-être pas tout.
Non, ouais, c'est une précision. Oui. Ça n'explique
tandis
pas.
Tandis que monsieur Mamadi Fofana est français, lui, monsieur, comme vous et moi.
Ah, très bien.
Et donc, voilà, bah, une enquête a été ouverte et voilà, ça m'a... J'ai été un peu abasourdi de voir un maire, ancien ministre, donc recteur d'académie par-dessus le marché, faire un geste aussi stupide. J'avoue que je n'ai pas compris si c'était la précipitation, de l'ignorance.
Non.
Xavier a un avis.
Je ne sais pas, je n'ai pas enquêté précisément, mais comme ça, au flair... Je pense que ça vaut le coup de chercher à savoir si cette famille n'est pas une famille extrêmement influente localement qui tient en coupe réglée telle ou telle communauté, tel ou tel quartier, telle ou telle cohorte d'électeurs. Voilà, je ne pense pas qu'il est traité comme... Enfin, qu'il ait fait ça par hasard. Pas du tout. Pas du tout. Il prend un risque politique, malgré tout. Il le sait. Il le sait. On ne rend pas hommage à un proxénète... sans être mis au courant, c'était de renommée publique. Donc s'il le fait, c'est que autre chose, vraisemblablement, a pesé dans la balance. Et je pense que dans beaucoup de quartiers, quand même à forte emprise de narcotrafic, de proxénétisme, enfin bref, de grand banditisme, de futur grand banditisme, les points de contact entre les municipalités et ces milieux-là sont en train de se démultiplier à une allure extrêmement... extrêmement inquiétante. Et donc, voilà, si j'étais à la tête d'un service de l'État d'enquête, eh bien, j'irais fourrer mon nez à Clichy-sous-Bois, et assez rapidement, en réalité, parce que ça révèle certainement des choses beaucoup plus profondes.
Alexis Poulin, un avis là-dessus ?
Oui, je suis assez d'accord. Je pense que le maire savait très bien à qui il avait affaire. Et s'il choisit de faire ça, c'est sans doute qu'il est obligé de le faire à des fins électoralistes. Hein. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière. Et Olivier Klein, c'est quand même quelqu'un qui est assez proche hein, des Macron, qui a été ministre, qui a cumulé hein, recteur, délégué interministériel, adjoint, conseiller métropolitain, maintenant maire, etc. Qui profite grassement comme ça de ses fonctions et qui n'a pas voulu d'ailleurs publier à la demande des citoyens, ces frais de représentation. Peut-être que dans les frais de représentation, il y avait des passes...
ça, on ne peut pas vous laisser dire ça. Déjà, il n'y aurait pas de facture. Donc...
Mais pour dire, bon, bah encore une fois, on a affaire à des élus qui font ce qu'ils font de mieux, surtout en local, du clientélisme. Hein, et visiblement, il n'y a aucune limite.
Xavier ?
C'est quand même fascinant. C'est le même week-end où la France est endeuillée pour le viol d'une gamine, d'une mineure. On a un maire qui rend hommage à un proxénète qui réduit en esclavage sexuel d'autres mineurs, puisque, Jean-Yves Le Gallou l'a rappelé, la jeune femme qui devait être entreprise par ce client était mineure. Et dans le même week-end, la presse, en revanche, s'indigne dans ma bonne ville de Carpentras, c'était la grande affaire qui concernait les droits des femmes, eh bien, c'est la suppression de la subvention de la ville de Carpentras, par ailleurs en état de semi-faillite, au planning familial, une association qui, par ailleurs, pense que les hommes peuvent être enceints. Vous voyez l'univers
et qu'il y a des femmes à pénis
dans lequel nous nous trouvons.
Mais
rendre hommage
faut
à un proxénète, pas de problème. Supprimer une subvention à une association à prise de bouffées délirantes qui pense que les hommes peuvent être enceints, là, c'est un crime contre le droit des femmes et qui prouve que l'extrême droite, décidément, n'a jamais changé.
Voilà. Alexis ?
Faut écouter l'hommage hein, qui dure 5 minutes, c'est lunaire. Hein. Parce que vraiment, on a l'impression que le criminel qui s'est fait tuer, c'était quand même le meilleur gars du coin. Quoi.
C'est Nelson Mandela. Vraiment,
ouais, c'était. Mais limite.
Est-ce que le maire était au courant du casier du bonhomme ou de sa profession ?
C'est pas possible, quand même.
Deux jours avant, François
Mamadi Fofana.
Et la tweetosphère était en ébullition. pour se poser la question de savoir est-ce que c'est vrai ou pas, tellement ça paraissait invraisemblable.
Il y a eu des dizaines
de milliers de tweets réalisés à ce sujet, taguant Klein, la mairie et autres. Il a maintenu cet hommage malgré tout, c'est absolument incroyable. Donc autre chose devait peser dans la balance.
Il sait très bien ce qu'il faisait, ouais, voilà.
Bon, eh bien écoutez, on va vous laisser cette conclusion. Il nous reste 5 minutes. Alors, c'est un peu léger pour parler de l'affaire Henri Novak, mais peut-être un mot chacun rapidement. Je résume, hein, donc Henri Novak est un jeune homme de 18 ans qui a été tué en décembre 2025 par un sikh qui l'a poignardé et il s'est fait passer pour la victime. Et on a vu un phénomène de wokisme policier, puisqu'ils sont allés au secours du sikh qui disait « il m'a donné un coup de poing, j'ai un bleu à l'œil », authentique. Hein. Pendant que l'autre, par terre, était menotté, et on lui signifiait son état d'arrestation, et il était en train de dire « il m'a poignardé, je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer ». Donc comme je le disais, ça rappelait la mort aux États-Unis de George Floyd qui a déclenché Black Lives Matter. Et à ses derniers propos, je ne peux plus respirer, le policier a répondu « Je ne crois pas mon pote ». La vidéo a été rendue publique grâce à une campagne d'influence menée par Elon Musk et puis par l'opinion publique de plus en plus forte. Alors voilà, en une minute, est-ce que vous avez un mot? Est-ce que, à votre avis, ça va peut-être suffire à enfin faire craquer ce plafond qui existe en Angleterre et inciter Keir Starmer à mettre un genou au sol? Jean-Yves et Richard.
Un, il a été tué deux fois. Il a été tué par le racisme anti-blanc du sikh et il a été tué par l'antiracisme inculqué aux policiers. Est-ce que ça va faire prendre conscience? Oui, ça contribue à éveiller la conscience, pas seulement en Grande-Bretagne, parce que maintenant, il y a une sphère européenne, en tout cas même occidentale, qui prend conscience que ce sont les Européens, les Blancs, qui sont menacés par toutes ces évolutions. Et donc, je pense que ça va contribuer à faire avancer l'opinion. Il y a d'ailleurs une scène qui est absolument terrible, une image qui est terrible. C'est on voit au moment où il est menotté, il a la main blanche parce que le sang
ne passe plus.
En est parti et les policiers ne le voient même pas. S'il y a une femme policier quand même qui, à un moment, à la fin de la scène, dit « Attention, il se passe quelque chose ». C'est la femme qui a peut-être un peu plus d'empathie que les deux hommes qui appliquent bêtement ce qu'on leur a enseigné à l'école de police.
Parce qu'il faut préciser...
Ce qu'on leur a enseigné, c'est la hiérarchie qu'on devrait condamner.
Là et là, la police anglaise annonce qu'ils vont revoir les méthodes de police wokiste enseignées à partir des années 2020-25 et mises en place à partir de 2025. Richard de Sèze voulait intervenir.
Oui, la police britannique tient quand même à expliquer que pour le moment, Henri Novak est toujours l'agresseur présumé. Donc c'est génial. Oui, oui. Parce que donc elle tient en fait à confirmer
son
narratif, comme dirait un poutinien, comme quoi en fait les policiers sont intervenus parce que Henri Novak était l'agresseur.
Ouais. Vous avez envie d'un mot de conclusion sur cette affaire?
Mais ce qui est sidérant, c'est que ça se produit dans un pays où, déjà, lors de l'affaire des grooming gangs, donc de ces jeunes filles britanniques asservies en esclavage sexuel par des gangs de Pakistanais, il avait été établi que ce système ignoble avait perduré parce que la police avait peur de désigner en désignant les coupables, de faire le jeu du racisme ou de l'extrême droite. Voilà. Donc, une affaire de plus qui relève du même aveuglement, du même déni. Il faut juste souhaiter que les institutions changent, j'en doute avant qu'elles ne soient balayées, mais au moins que ça fasse sortir les populations elles-mêmes de cet aveuglement et qu'elles balayent les responsables et les coupables de toutes ces horreurs et ces États qui jouent en réalité, comme je disais tout à l'heure, contre leur peuple. Les États occidentaux et européens ne sont plus les serviteurs de leur peuple, ils en sont les principaux adversaires. Voilà ce que je pense de tout ça.
Merci à tous. Alors, il nous reste malheureusement 30 secondes, donc l'émission s'achève. Merci Richard de Sèze, merci Jean-Yves Le Gallou, merci Alexis Poulain. Sauf si vous avez un mot en 10 secondes pour conclure.
Un mot, c'est Gad Saad, Suicidal Empathy, l'empathie suicidaire qui explique très bien ce qui est en train de se passer dans nos sociétés occidentales.
Eh bien, Alexis Poulain, vous nous donnez le dernier mot de cette émission. Merci aussi à Xavier Van Lierde et à Benoît. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Restons courtois avec votre serviteur. Et dès demain, avec Richard de Sèze et la litanie des amis que vous connaissez. À bientôt.
Ça suffit maintenant.